France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Couvrir les débats d'une commission d'enquête parlementaire, nous l'avons déjà fait. Au téléphone sonne, mais c'est une drôle de mise en abîme lorsque la commission d'enquête concerne le service public et que donc nous sommes dans l'équation qui se joue entre parlementaires. On a hésité un peu pour tout vous dire avant de le faire, ce téléphone sonne. D'un côté, il n'est pas question de nous cacher derrière notre petit doigt. On parle de nous, ne faisons pas semblant de ne pas entendre. Ce que nous n'avons pas le droit de faire non plus et de ne pas entendre, c'est l'écho du pays, la petite musique, de la défiance. Elle touche les médias. L'information, elle touche aussi très largement les politiques et sur ce point, un partout, la balle au centre. Ce que nous savons aussi, c'est qu'il suffit d'un tweet d'Elon Musk partagé 14 millions de fois pour faire basculer les esprits, que l'info doit tenir sur un bandeau pour faire rester ceux qui regardent ou qui écoutent, que l'omniprésence des GAFAM dans nos vies a flouté toutes les frontières, les avis, les infos, les opinions, les croyances, les critiques, la parodie. Qu'est-ce qu'il doit devenir dans ce contexte-là, le service public de radio et de télévision. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il est interdit d'interroger le fonctionnement du service public et son financement? Bien sûr que non. Est-ce qu'il est interdit de questionner son honnêteté? C'est de ça qu'il va être question aussi. Et là, je deviens jugé parti puisque moi non plus, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Et bien sûr, c'est la deuxième raison pour laquelle nous avons hésité à traiter ce sujet ce soir. Mais cette émission, nous la voulons tous les jours, l'expression de vos avis sur les questions qui secouent la société, le service public, partout en Europe, ici aussi, est l'une de ces questions-là. Alors, on ne va pas faire d'ici à 20h une mini-commission d'enquête parlementaire, on va vous écouter, bien sûr. Nos deux invités, depuis chacun de leur bord politique, vont aussi vous écouter. Vous qui voulez comprendre ce que la télé et la radio peuvent devenir, vous qui nous direz le service public que vous voulez, vous qui nous aimez moins, vous qui nous aimez mais... Bref, comme chaque soir, c'est vous qui avez la main et c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Nicolas, c'est vous le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir à vos invités. Je vous remercie d'avoir pris mon appel. Je vais essayer d'être un peu clair. Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer sur les médias. Moi, mon sujet, je relie beaucoup le média avec ce que vous disiez en introduction, avec la force de la démocratie. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a une production éditoriale médiatique au sens large, hein, que ce soit les éditions, la télé, les journaux, qui appartiennent en grande partie à des groupes privés. Et pour moi, on doit avoir un travail éditorial, un travail de journaliste qui soit dénué d'intérêt particulier. Et c'est ça que je recherche aujourd'hui dans le service public de l'information. En effet, hein, c'est un coût, mais la démocratie a un coût. On l'accepte pour financer les partis politiques, ce coût. On l'accepte pour financer nos ministres, pour financer nos sénateurs, nos députés. Je ne vois pas pourquoi on ne l'accepterait pas pour un service public de l'information.
Et alors, est-ce que, puisque je disais qu'on n'allait pas se cacher derrière notre petite voix au cours de cette émission, Nicolas, quand vous nous écoutez ou quand vous regardez la télévision, il y a des choses que vous aimez, il y a des choses qui vous font bondir aussi. Où est-ce que vous êtes, vous, en fait, dans votre manière d'écouter et de regarder?
Alors, clairement, j'ai plus de télévision. Voilà où j'en suis, c'est-à-dire que j'ai cassé le thermomètre. Non, j'ai plus la télévision, je trouve que je m'y retrouve plus. En effet, j'écoute soit la radio, soit la lecture de journaux.
Mais du coup, même nous, allez-y, n'ayez pas peur, quand vous nous écoutez, encore une fois, parce que c'est ça aussi qu'on va jauger et qu'on va juger, même quand vous nous écoutez, est-ce que parfois vous regardez votre transistor ou votre ordinateur en gueulant, ou est-ce que en général, vous dites « ok, c'est à peu près là où je suis aussi », c'est quoi votre réaction? Est-ce que vous avez une réaction en nous écoutant?
Alors, la réaction que j'ai, c'est souvent que bah, vous avez des avis divergents et du coup, bah, des fois, on en accord et des fois moins, mais au moins, on entend plusieurs... Pour moi, ce qui est important, c'est déjà de documenter les avis, de savoir d'où ça vient. Ça, c'est important. Et après, forcément, on s'y retrouve plus ou moins, mais de pas avoir une thèse, en fait. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Aujourd'hui, dans le monde des médias qu'on a, c'est que ça appartient beaucoup à des intérêts privés, beaucoup à des milliardaires qui, eux, ont une vue et une direction dans laquelle ils veulent aller. C'est vraiment ça que je trouve inquiétant.
Merci Nicolas, merci d'avoir entamé cette émission pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Autour de la table, il y a Sophie Tallier-Polian, bonsoir.
Bonsoir.
La députée du groupe écologiste et social, vous êtes élue du Val-de-Marne. Et il y a Philippe Ballard, bonsoir monsieur Ballard.
Bonsoir.
Vous êtes député Rassemblement National de l'Oise. Je voudrais préciser que vous avez été journaliste.
Absolument.
Y compris dans le service public d'ailleurs au début de votre carrière. C'est toujours bon à préciser, je suis sûr que vous en avez des souvenirs. Moi je trouve ça intéressant ce qu'il nous raconte notre auditeur Nicolas, qui nous dit attention, il nous dit deux choses. Il nous dit, si on enlève le service public, attention à ce à quoi, à quel paysage peut ressembler l'information désormais. Et il nous dit aussi, l'important c'est d'entendre des avis aussi qui s'entrechoquent. Un mot sur ce premier message, Philippe Ballard.
En fait, quand Nicolas parle et entame sa démonstration, il dit c'est pour la démocratie. Bon, ce qui est très bien, il n'y a rien à dire là-dessus, mais après, moi j'ai deux réflexions à faire. Il y a d'une part la neutralité du service public et puis le prisme pris lorsque l'on aborde certains thèmes. Alors quand je parle de neutralité, hier on auditionnait M. Hajdari, qui est le patron de l'ARCOM. Je vais citer trois exemples extrêmement précis qui montrent qu'il n'y a pas neutralité sur le service public. Je vais parler, alors je vais commencer par France Inter, puisqu'on y est, lors des élections législatives dans l'entre-deux-tours, Charline Bourdin-Necker, qui avait à l'époque une émission le dimanche soir.
C'est dingue, parce que j'avais parié que vous commenceriez par Charline Bourdin-Necker, et du coup, pardonnez-moi de vous interrompre tout de suite, je vais commencer par, est-ce qu'on peut essayer de définir de qui et de quoi on parle ? C'est-à-dire, quelle est la case qui parle d'information ? Ici, c'est une émission d'information et qui fait de l'info. Mmh. Quelle est la case du divertissement ? Quelle est la case de l'humour ? Est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, je vous poserai la question aussi, Sophie Tallier-Polian, mais puisque vous avez commencé, Monsieur Ballard, est-ce que ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'on met tout dans le même sac, quoi qu'on dise, d'où qu'on parle, quel que soit le type d'émission ? C'est exactement la même chose.
Oui, parce que pour l'auditeur, pour Nicolas par exemple, qui doit toujours être en train de nous écouter, vous savez, entre une émission qui se est diffusée entre 18h
et 19h... Est-ce qu'on peut récupérer Nicolas, s'il vous plaît ? Pardon, les émissions.
Oui. Entre 18h et 19h, le dimanche, et un journal qui suit à 19h, je ne sais pas s'il arrive à faire la différence. Mais quand on dit « je vais faire une émission contre », alors ce qu'elle appelait l'extrême droite, sans nous citer, mais pendant une heure, sans aucune contradiction, ça pose un problème.
Sur une émission d'humour, pardon Monsieur Ballard, mais vraiment on ne va pas rester là-dessus, je voudrais quand même poser la question à Nicolas. Nicolas, pardon, est-ce que vous savez faire la différence entre une émission d'information, que ce soit la nôtre, que ce soit la matinale, que ce soit le 13h ou ce que vous voulez, et une émission d'humour ? Est-ce que vous, l'auditeur, aussi, vous avez l'impression que cette frontière est floutée ? Ou est-ce que vous faites la différence ?
Alors, oui, il ne faut pas prendre que les... Non, je fais parfaitement la différence, mais est-ce que les hommes politiques font également la différence ? Parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques vont aussi faire du spectacle dans des émissions d'humour. Donc, tout le monde fait ce mélange des genres, et à la fin, même aujourd'hui, on parlait aussi sur des émissions de télévision qui respectent pas non plus, et qui sont des groupes privés qui respectent pas non plus l'équilibre des forces. Donc, ce sujet-là, on peut l'avoir dans du privé comme dans du service public, et c'est pas la bonne raison, c'est pas la bonne approche de mon point de vue.
Je sais que vous aviez deux autres points, Monsieur Ballard, je ne les ai pas oubliés, je voudrais juste donner la parole à Sophie Tallier-Polian, et peut-être là-dessus, en fait, c'est le floutage des frontières qui, aujourd'hui, est plus difficile. Les réseaux sociaux ont flouté l'ensemble de ces frontières, je le disais tout à l'heure en introduction, ce qui est du domaine de l'humour, ce qui est du domaine de l'opinion, ce qui est du domaine de l'information. Est-ce que c'est pas, au fond, là qu'il faut travailler, et là où il faut travailler, c'est-à-dire redéfinir ce que sont les frontières, pour qui et où, peut-être, non ?
Alors, c'est vrai que le débat politique général est quand même parfois flouté par ce qui nous vient des États-Unis, l'infotainment, c'est-à-dire où on mélange un peu tout, on fait de l'ambiance, on rigole, et puis en même temps, on donne la parole à des politiques où on débat de sujets de société. Moi, j'aurais quand même me permettre de revenir sur ce qu'a dit Nicolas sur le coup. Parce qu'on parle beaucoup de finances publiques, on parle beaucoup de dépenses publiques, et je crois que la démocratie a un coût, et que dans la démocratie, il doit y avoir un service public de l'audiovisuel qui est financé à hauteur de ses missions. Et aujourd'hui, le budget de l'audiovisuel public en France, qui a un petit peu moins de 4 milliards d'euros, est très nettement inférieur aux autres pays européens comparables. Donc ce coût-là, il faut que l'on l'assume correctement. Et après, il faut effectivement que ce service public de l'audiovisuel soit contrôlé, et c'est le rôle de l'ARCOM que de vérifier que les choses se passent correctement. Et on pourra toujours citer des exemples de choses qui vont, de choses qui ne vont pas. C'est logique et il faut que le régulateur puisse faire son travail sur les organes de presse privés ou publics.
Le premier à avoir été entendu, Philippe Ballard, vous le disiez, effectivement, c'est le président de l'ARCOM hier. Et l'une des questions, ça a été au fond, est-ce que l'ARCOM est dépassé par, pas seulement ses missions, mais par la manière dont les médias fonctionnent aujourd'hui, par les médias qui pullulent, par ce qui se passe sur le net et ailleurs. Est-ce que, là aussi, c'est pas par ce bout qu'il faut prendre les choses? La régulation a beaucoup de mal à fonctionner aujourd'hui. On le voit bien entre le service public, le privé. Je disais tout à l'heure, lorsque Elon Musk tweet et est repris 14 millions de fois, ça c'est évidemment régulé par personne, mais ça arrive dans les foyers de chacun. Est-ce que l'une des difficultés, c'est pas celle-là plutôt?
Ils ont plusieurs dizaines de milliers de saisines à traiter. Oui, alors, il est évident que...
Je ne parle pas seulement des saisines, mais aussi du calcul, mais aussi de chacun des médias.
Oui, mais c'est la décision du Conseil d'État, en fait, de février 2024, maintenant. Et moi, j'en ai parlé avec Roch-Olivier Metz, qui est l'ancien président de l'ARCOM, qui m'avait dit, mais on pourra jamais faire. Ça consistait à dire, alors c'est assez facile à faire, pour une radio comme vous, le temps de parole des politiques, ça c'est assez facile à faire, mais après des éditorialistes qui sont pas dans la même case qu'un présentateur fatalement,
exactement,
qu'un invité,
qu'un humoriste.
Donc là, on a ouvert un peu la boîte à Pandore. Cette décision du Conseil d'État, je pense qu'elle ne verra, parce que, mais Roch-Olivier Metz me l'avait dit, moi il va falloir que j'embauche quoi, 300, 400, 500 personnes pour écouter toutes les radios, toutes les télés tous les jours.
Mais
et celles qu'on peut écouter, parce que les radios associatives, par exemple, passe à travers les mailles.
J'entends bien, et c'est bien la difficulté, on parlait du floutage des frontières, c'est bien cette difficulté-là, en fait, et ce que ça m'évoque, ce que vous dites, c'est qu'au fond, la perception prime, et on essaye de compter une perception, mais on ne peut pas compter une perception parce qu'elle est différente chez chacun de ceux qui nous écoutent, non ?
Oui, bien sûr, il y a beaucoup de subjectivité dans tout ça, mais moi, je ne comprends pas pourquoi l'ARCOM n'a pas mis les moyens pour monitorer, hein. Vous savez, quand on est enceinte, là, on se fait monitorer, on surveille le bébé, hein, voilà, on met des électrodes sur le ventre et puis on écoute ce qui se passe. Et donc, comme l'ARCOM ne l'a pas fait...
Moi, j'ai l'impression qu'on est bourré d'électrodes, quand même, dans le service public.
RSF l'a fait. Là, Reporters sans frontières l'a fait. Ils ont sorti les résultats de leurs études. C'est assez intéressant à voir. Assez intéressant parce que qu'est-ce qu'ils ont décidé de prendre? Ils ont pris les bandeaux pour pouvoir, sur les chaînes d'information, pouvoir regarder comment les choses sont traitées, et surtout quels sont les sujets qui reviennent, et surtout quels sont le respect du pluralisme des hommes politiques et des femmes politiques. Et ben, leurs résultats sont édifiants. C'est-à-dire que sur CNews, c'est la nuit, la gauche c'est la nuit. Sur le service public, c'est pas la même chose.
Alors, non, mais j'ai vu la séquence, ouais. Parce que j'ai visionné l'émission à laquelle vous faite référence, qui s'appelle Complément d'enquête.
Ah non, non, moi je ne l'ai pas vue.
Ça sera diffusé demain soir.
Moi, je me base sur mon travail quotidien avec
Reporters sans frontières. Alors, le temps d'antenne, enfin, moi, encore une fois, je ne suis pas l'avocat de CNews ni du groupe Bolloré, mais est-ce que vous acceptez d'aller à CNews?
Ben, j'accepterai d'aller à CNews dès que l'antenne sera tenue.
Voilà, mais vous...
Non, mais attendez,
pour
monsieur, c'est très important.
Pour le temps d'antenne,
monsieur Ballard,
si on n'y va pas, c'est compliqué.
C'est
encore une fois,
important.
Moi, je ne suis pas l'avocat de CNews, mais vous refusez d'y aller. Alors, évidemment, il y a un manque à gagner, si on peut dire.
C'est valable pour chacune des télés, chacun des hommes politiques.
Si on refuse d'y aller, fatalement, ils ne sont pas comptabilisés.
Mais non, mais moi, je viendrai vraiment immédiatement sur CNews, si CNews organise ses plateaux différemment et si je suis garantie de pouvoir m'exprimer sans être interrompue, par exemple.
Là, vous parlez du temps de parole, alors évidemment,
non,
vous n'y allez pas.
Pas du tout.
C'est pas plus
pas
compliqué
du tout,
que ça.
Monsieur Dallard,
dans le temps de parole,
pas du tout.
Alors nous, dans le temps de parole,
c'est la maîtrise de l'antenne.
Et sur, exactement, c'est
madame.
Ce que j'essaye de faire, maîtriser l'antenne et le temps de parole, en tout cas chez nous, il est respecté. C'est compliqué chaque jour, c'est compliqué chaque fois, y compris auprès de certains auditeurs, mais effectivement, il est respecté. J'oublie pas que c'est le téléphone sonne et que les autres auditeurs nous appellent. Voici Aurélie. Bonsoir Aurélie.
Oui, bonsoir Fabienne. Merci de prendre mon témoignage. Je voulais rappeler mon attachement au service public parce que bon, moi j'ai 47 ans, j'écoute Radio France, donc France Inter et France Culture depuis mon enfance en famille, et je suis très attachée au Masque et la Plume, enfin à plein d'émissions, donc, et je vous écoute de 19h à 19h parce que je suis indépendante. Enfin, je veux dire, j'écoute beaucoup, pas toute la journée, mais je vous écoute le matin, enfin bref. Et donc, je voulais dire que si on n'avait pas le service public, on n'aurait pas des émissions de 10 heures sur Jane Austen ou sur des sujets scientifiques très pointus. On a vraiment besoin du service public, de la radio. Et ça, on n'aurait plus, si c'était privatisé, il n'y aurait pas des émissions aussi pointues, tant scientifiques, artistique, etc.
Mais je sais qu'il y a un mai, Aurélie, et on attend votre mai, et nos invités aussi, allez-y.
Voilà, ce que je déplore, et ce qui m'attriste un peu, c'est que j'ai toujours une impression de partialité dans les commentaires des animateurs, un peu... Moi, je suis de centre-droit et je viens de province, j'habite à Paris, et... j'ai l'impression toujours d'un entre-soi chez vous, d'une pensée de bien-pensance de gauche qui exclut, qui m'exclut, et que ça manque un peu de neutralité, tout ça, ça manque de neutralité et de tenue. Voilà, parce qu'il n'y a pas une émission où il n'y ait pas ce sentiment diffus. Ça peut être une émission, je ne sais pas, scientifique ou sur la cuisine, et d'un coup, il y a un scud gratuit qui part sur Michel Sardou. Vous voyez, c'est rigolo de dire ça comme ça, mais... Ou alors, voilà, il y a ce sentiment un peu d'exclusion et de manque de neutralité.
Je ne veux pas vous couper, parce que je ne veux pas avoir l'air de couper le moment où vous êtes le moins sympa avec nous, mais on a entendu votre message. Et merci beaucoup. Je voudrais rappeler à nos invités, à ceux qui nous écoutent, ici, France Inter, 80% de notre auditoire, il est où ? Il n'est pas à Paris, justement. Et il fait partie de ces gens, eux, pour le coup, pour ce qui est de notre auditrice qui a migré. Mais voilà, ça existe. Moi, j'adore ce message, mais c'est ça la radio, quoi. Vous ne croyez pas ? Et y compris chez vous, Philippe Ballard.
Je pense qu'elle a tout dit, Aurélie. À la limite, j'ai presque envie de vous dire, j'ai rien à rajouter. Parce que je vous écoute, allez, je ne suis pas...
Ah bah,
déjà, parce que j'ai commencé chez vous, même au téléphone sonne.
Vous avez commencé
en septembre 1979. Écoutez, Giscard était président et Bombard Premier ministre. Voilà. Vous n'étiez même pas né, je pense.
Non, sans doute. Un petit peu quand même. J'espère surtout que grâce à vous, je ne finirai pas au téléphone sonne, moi, mais je vous en prie, allez-y.
Non, mais elle a tout dit. Moi, je vous écoute. J'écoute France Culture, même quand je suis en voiture dans ma circonscription. Elle est très grande. Il y a des émissions, effectivement, moi, je trouve ça un peu trop pointu. Voilà, bon, mais c'est. Mais je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, un peu trop pointues. Il y en a d'autres qui sont passionnantes. Mais ce qu'elle dit, il y a un entre-soi. C'est ça, en fait, qui est embêtant. Il n'y a pas que la neutralité.
Mais
il y a
est-ce que ça vaut est-ce que ça vaut fermeture quand, attention, il y a des trucs que j'aime pas trop, il y a un entre-soi. Est-ce que ça vaut fermeture ? Est-ce que ça vaut privatisation ?
Non, mais il y a juste... Alors, je rajoute, pour je laisser ma collègue parler... non, mais il y a juste une chose qu'il faut bien avoir présent à l'esprit quand on parle, c'est que vous avez... à la fois de l'argent public, 4 milliards d'euros quasiment, et puis de la pub aussi. Moi, j'écoutais avant le journal de 19h tout à l'heure, j'étais en voiture. Vous avez de la pub comme dans le privé.
Alors, attendez, vous avez dit 4 milliards d'euros, c'est France Télé.
C'est France,
Radio France, TV5, d'euros, Arte.
De mémoire,
voilà,
Radio France.
C'est 660 millions.
600, ouais, 600, voilà. Et vous avez de la pub sur le numérique, vous dépassez les quotas, entre parenthèses. Donc, c'est ça la différence. C'est que vous avez de l'argent public. Si une chaîne privée n'est pas regardée, n'est plus regardée, et de moins en moins regardée, elle aura de moins en moins d'auditeurs, de moins en moins rentrées publicitaire, et elle pourra potentiellement mettre la clé sous la porte. Voilà, le service public, c'est avec notre argent. Moi, c'est avec, quand je parlais de cette émission, mais j'aurais pu vous citer une émission d'information, c'est Dans l'air, où le plateau n'est pas tenu quand on compare Jordan Bardella avec Van Papen, il y a un petit problème. Alors là, c'est en cours d'instruction à l'ARCOM. Là, c'est une émission d'information. Et l'animatrice, Caroline Roux, en l'occurrence, ne tient pas son plateau. Alors, moi, quand j'étais journaliste, on me disait dans l'oreillette, tiens ton plateau.
Mais moi, on me le dit tous les jours aussi. Vous avez été journaliste aussi, et vous savez, d'abord, vous savez ce que c'est que le feu du direct, par ailleurs, vous savez, et effectivement, vous avez cité, je n'ai pas entendu évidemment cette émission, je ne suis pas là pour défendre Caroline Roux ou qui que ce soit d'autre, mais ça s'appelle aussi une émission en direct, donc il y a des choses qu'on entend, l'ARCOM.
Il y a un chef d'édition, il y a un rédacteur en chef.
L'ARCOM est là pour ça, même au-delà de l'ARCOM, d'ailleurs, si on considère qu'il s'agit de diffamation ou autre, il y a même d'autres instances qui sont là pour ça, mais est-ce que vous avez le sentiment réellement que ça, c'est une histoire de tous les jours, chaque instant et tout le temps, ou est-ce que vous qui avez été journaliste et qui avez fait du direct, pardon, je sais que vous vouliez intervenir, qui avez fait du direct, vous savez aussi comment fonctionne ces choses-là. Et vous savez aussi ce que c'est un invité de cette couleur, un invité de cette autre, et puis l'heure suivante, les choses changent. Ouais. Ça, c'est des choses qui sont
réalités, dans la commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des chaînes de la TNT cette fois. Je me rappelle de Pascal Praud qui était épinglé par, c'était Saint-Toul, un député LFI qui était rapporteur, et qui lui mentionnait tout ce qu'il a pu laisser passer à l'antenne, qui effectivement, c'est pas. Et Pascal Praud, encore encore une fois, moi je ne suis pas son,
et toujours là.
Son avocat, disait, mais moi je fais 2 heures de direct, 2 heures plus 2, ça fait 4 heures, oui, il peut m'arriver de... Mais quand on fait l'antenne, on doit tenir son plateau, tout simplement.
Eh bien, voyez, on va faire un bond au Team Pascal Pro. Vous vouliez intervenir, Sophie Taillé-Polian.
Oui, pour répondre à l'auditrice. Je fais beaucoup, parce que c'est vraiment, je travaille énormément sur la question des médias, donc je fais beaucoup d'échanges, de réunions publiques sur cette question-là. Et j'entends des choses sur le service public de l'audiovisuel, des gens qui se disent « Oh, mais c'est pas neutre, oh, mais c'est pas... c'est orienté de telle ou telle manière. » Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'en fonction de la conscience de ces gens, en fait, ils sont jamais contents, mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire que moi, j'entends des tas de gens de gauche qui disent c'est pas bien, j'entends des gens de droite qui disent c'est pas bien. Donc je me dis finalement, c'est que ça doit pas être si mal, parce que moi, je dois vous avouer que quand j'entends, par exemple, hein, on cite des noms, mais l'édito économique de Dominique Seux, je me reconnais pas. Mais par contre, il y a d'autres moments où je me reconnais plus. Alors, et c'est ça qui est intéressant. C'est ça le pluralisme en réalité.
On s'est un peu amusé avec ça en regardant les messages tombés, notamment sur WhatsApp. Je vais en citer 3. On a Laurence qui dit je suis une électrice plutôt d'hiver droit. J'écoute et j'aime beaucoup France Inter, je trouve ça très pertinent, mais ce qui me gêne de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'écouter une radio de bobo gauchiste. Je me sens un peu attaqué dans mes idées, pas respectées dans mes choix politiques par certains chroniqueurs. Pardon. On a Béatrice qui nous dit « Je suis l'une de vos auditrices depuis 10 ans cette année et j'ai décidé de complètement arrêter de vous écouter, en tout cas les émissions d'information, vu les origines de tous les professionnels, les anciens conseillers de Macron ou de Sarkozy. L'objectivité commence déjà par faire le tri parmi ceux pour qui vous bossez. » On a Tiburce sur WhatsApp aussi qui est arrivé tout à l'heure, un peu après 19h, qui dit « Allez, bonne soirée Radio Macron ». Moi, quand j'entends ça, à l'époque où j'étais sur Twitter, j'en recevais tous les 4 matins, je me dis « ça doit s'appeler faire du journalisme, en fait, quand on se fait taper à droite, à gauche, au milieu ». Non.
Ben moi, je crois effectivement que en réalité, il y a beaucoup de gens qui, et c'est une forme de sport national, hein, de dire « Ah, j'ai été énervé, j'ai entendu ça sur l'audiovisuel public, etc. » Et en même temps, qu'on soit de droite ou de gauche, personne n'est jamais content. Et en même temps, les gens, ils aiment leur service public de l'audiovisuel. C'est le service public le plus apprécié de tous les services publics nationaux. Et c'est la source d'information dans laquelle les gens ont le plus confiance. Donc moi, je crois, on peut toujours travailler pour que ce soit mieux, pour qu'il y ait des dérapages. Enfin, voilà, dans toute chose, c'est possible d'aller mieux. Mais il faut quand même acter les choses. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le respect du pluralisme des temps de parole, c'est respecté. Quand on regarde un certain nombre aussi de diversité de sujets, c'est respecté. Et j'ajoute que l'émission de service public sur la diversité culturelle, c'est essentiel. Et ça, l'auditrice le soulignait aussi, et je veux venir en soutien.
Sophie Taillé-Polian, vous êtes députée du groupe Écologie et Sociale dans le Val-de-Marne. Philippe Ballard, vous êtes députée Rassemblement National de l'Oise, et à l'antenne, il y a Sandrine qui nous attend. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir France Inter.
Bonsoir Sandrine.
Service public.
Allez-y.
Bonsoir. Et écoutez, moi je trouve que la grande crainte, si le service public de l'audiovisuel était privatisé, ce serait plus d'informations, donc que des fake news, que du complotisme, que des groupes privés avec des intérêts privés. Et donc on serait complètement perdu, et là la démocratie peut tomber.
Merci pour votre question. Philippe Ballard, je voudrais profiter de cette question. En fait, c'est quoi le projet, pour être très honnête? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Donc, privatiser France 2 ou France 3, ou France 2 et France 3, privatiser France Inter. Le projet, au bout du bout, c'est quoi?
Alors, dans un premier temps, c'est de réformer toutes les lois qui datent de 1986, loi Léotard, et qui régissent tout votre secteur. Il y avait 6 chaînes de télé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les plateformes. C'est faire exploser tout ça pour permettre à des groupes privé.
Donc faire exploser, ça veut dire enlever...
On change. Moi, j'ai déposé une proposition de loi, je vous y renvoie.
Allez-y, vous êtes à l'antenne, profitez-en, c'est le moment. Mais est-ce que voilà, ça veut dire, typiquement, est-ce que ça veut dire que sur France Télévisions, on enlève France 2 ou France 3 qu'on privatise, ou France 2 et France 3?
Non, dans un premier temps, on permet à des groupes privés de se renforcer en se mariant. Par exemple, l'autorité de la concurrence ne pourra plus s'abriter derrière tous ces attendus lorsque TF1 et M6, mais ça peut être d'autres, hein, je cite les deux parce qu'ils ont failli se marier ensemble, ça aurait fait un groupe qui avait quand même peut-être une stature européenne comme Bertelsmann et qui pouvait commencer à rivaliser avec les plateformes. Parce que le danger, c'est ça. C'est
donc
quand
on permet ces gros
mariages. Et dans un deuxième temps, effectivement, là, on regardera les France 3 nationales. Moi, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Hein. Les France 3 locales qui sont plutôt des régionales, comme les radios d'ailleurs, ici, anciennement France Bleu, qui boit un peu le bouillon d'ailleurs, d'un point de vue audience, entre parenthèses. Est-ce qu'on n'a pas les utilités? Est-ce qu'on ne peut pas le garder dans le service public? Il y aura un débat à ce moment-là. Mais après, oui, il y aura une partie du service public qui sera privatisée.
Par exemple, nous, disons les choses un peu clairement, nous, qu'est-ce qu'on devient, nous, France Inter? Est-ce qu'on fait partie de ceux qui vont devoir se faire racheter ou pas?
Il faudra garder une fréquence permettant de communiquer avec l'ensemble de la population. Alors, France Inter, France Culture, puisque vous avez un réseau quand même, vous avez un droit de préemption sur toutes les radios privées, donc France Info, il faudra de toute façon garder en cas de crise majeure, ce qu'on ne souhaite pas évidemment pouvoir communiquer avec
Donc ça veut dire que ça sert à ça le service public en fait, ça sert juste à faire l'alerte en cas de crise majeure?
Ben non, mais c'est la loi.
Mais je sais bien que c'est dans la loi.
Il y a d'autres choses dans la loi et dans la Constitution, pareil.
On privatisera, effectivement, bah oui, peut-être France Inter, peut-être France Culture, France Musique. Il y a des radios de musique classique qui marchent extrêmement bien, oui.
Pas que de la musique classique sur France Musique.
Pour France 2, non, il y a aussi du jazz. Oui, j'écoute Radio Classique aussi. Je serai radio.
Sur France Musique.
Et en ce qui concerne France 2, oui, il pourra y avoir une privatisation.
Qui rachète ce genre de choses? Et quand je dis qui, je n'ai pas besoin de nom. L'idée, c'est dans le paysage tel qu'il est aujourd'hui, le paysage fragmenté tel qu'il est aujourd'hui, et ce que ça coûte, et surtout ce que ça veut dire. Et ce que ça veut dire aussi, M. Ballard, en termes d'influence, parce qu'on a tous bien compris aussi, enfin, tout le monde est d'accord pour dire qu'une télévision, une radio, pour celui qui la possède, peut aussi être de l'influence. Donc qu'est-ce que ça veut dire, désormais, si le paysage devient fragmenté, si ceux qui ont de l'argent, c'est qui en ce moment? C'est les GAFA, par exemple, ce sont les grands groupes de ce type-là. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour l'information en France?
Oui, c'est non. Et il faut d'ailleurs faire attention parce que quand on regarde la législation, il se peut très bien qu'un de ces groupes, GAFAM, puisse racheter des chaînes françaises. Donc là, effectivement.
Mais si elles sont à vendre?
Non, mais on peut faire en sorte que, d'un point de vue législatif, un groupe basé à l'étranger ou qui. Enfin, bon, on peut faire en sorte que ça soit bloqué. C'est déjà le cas. Hein, on peut pas. Un groupe étranger ne peut pas, à l'heure actuelle, racheter. Donc on peut garder les choses de la loi de 86. Bah, d'un point de vue législatif, voilà, on vote des lois qui interdisent à un groupe basé aux États-Unis, par exemple, de racheter une chaîne française, et y compris s'il installe des filiales dans l'Union européenne. Bon, ça, c'est pas compliqué à faire. Mais vous parlez de fragmentation, mais en fait, on est trop fragmenté et pas assez concentré, surtout. C'est ça le problème, on n'est pas assez concentré.
Les médias ne sont pas assez concentrés.
Ma collègue est absolument contente pour dire qu'on n'est pas assez concentré.
Allez-y, je voudrais présenter un peu le projet que nous avons pour les médias, parce que je pense qu'il faut une grande loi pour protéger l'indépendance des médias, la liberté de la presse, le pluralisme. Pour ça, d'abord, il faut empêcher que cette concentration à l'œuvre entre les mains de quelques milliardaires se poursuive, parce que, dans le meilleur des cas, ils ont uniquement leurs intérêts économiques à faire parler. Ou à faire pousser. Et puis là, comme on l'observe sur un certain nombre de chaînes, ils ont aussi leur visée politique dont ils se servent, et ils servent de leurs outils médiatiques pour les pousser. Donc oui, il faut lutter contre cela pour assurer le pluralisme. Et puis sur l'audiovisuel public, je rappelle quand même qu'il y a des directives européennes qui donne l'obligation d'avoir un service public audiovisuel. Attention, pas un média d'État, un service public de l'audiovisuel financé à hauteur de ses missions. Ces missions de service public qui doivent être, à mon avis, complétées, renforcées. L'exception culturelle française, c'est déjà dans les missions de service public, mais il faut renforcer. Et il faut aussi, bien sûr, renforcer, par exemple, les missions d'éducation à l'information qui sont essentielles aujourd'hui, qui doivent être développées pour tous les âges. Et puis, il faut faire en sorte que ces entreprises de l'audiovisuel public puissent avoir peut-être une gouvernance plus ouverte à leurs salariés et à leurs auditeurs ou leurs téléspectateurs. Moi, j'ai proposé à plusieurs reprises que les conseils d'administration soient élargis, que les sociétés des journalistes y soient présents en tant que tels. Eux, ils ont à cœur de défendre la déontologie, que les usagers y soient présents de manière forte, parce que c'est pour eux qu'on fait de la radio ou qu'on fait de la télé, et que les salariés aussi, pour qu'ils puissent défendre leurs conditions de travail. C'est des choses qui me semblent essentielles si on veut améliorer le service public et aussi, bien sûr, permettre le pluralisme nécessaire avec toute la presse ne peut surtout pas être publique, il faut beaucoup beaucoup de privé. Finalement, il faut le foisonnement. C'est le foisonnement qui est important.
On va retourner au standard, retrouver Patrick. J'ai juste une question pour aller sur le même thème que ce que disait Sophie Taillé-Poilian. Monsieur Ballard, vous disiez que on est obligé de garder de toute façon une chaîne du service public ou deux, j'en sais rien, parce qu'il y a la mission d'avertissement, y compris de la population, mais dans le cahier des charges, qui est un vrai cahier des charges, il y a effectivement une mission d'éducation, il y a une mission d'éducation jeunesse, il y a aussi pour ce qui est de divertissement, il y a aussi pour ce qui est de la télévision, le financement de la création française, il y a beaucoup de choses dans ce cahier des charges. Si on ferme ces robinets-là, qu'est-ce qui reste de tout ça?
Mais pourquoi le privé ne pourrait pas le faire?
Aujourd'hui, il ne le fait pas. Quand vous discutez avec les sociétés de production indépendantes, elles disent que heureusement qu'il y a le service public de l'audiovisuel, et dans notre pays, il y a un écosystème extrêmement développé. Dans les autres pays, d'ailleurs, il reste 10 boîtes de prod, et dans notre pays, il en reste 300. Est-ce que ce n'est pas une force? Est-ce que ce n'est pas fait partie de notre patrimoine et du rayonnement de la culture française? Pour moi, c'est très important.
Vous répondez, on retourne au standard.
Oui, alors moi je veux bien les sociétés de production, mais là, pendant la commission d'enquête parlementaire, on va s'intéresser pourquoi Media One, par exemple, de M. Pigas, qui est aussi l'un des propriétaires du Monde, s'est fixé comme mission, il l'écrit noir sur blanc, hein, je révèle rien, de combattre l'extrême droite. Pourquoi est-ce qu'il a 100 millions d'euros de contrat avec la 5 pour tout un tas d'émissions?
Moi, je ne parlais pas des émissions, mais du financement obligatoire de la fiction,
oui,
aussi,
une partie de la
création.
Mais il y a des règles, c'est pour les plateformes, c'est 20% de leur chiffre d'affaires, et les chaînes de télé, que ce soit TF1, que ce soit M6, que ce soit le service public, ont les mêmes obligations de financement.
Non, il y a des obligations supplémentaires.
Après, il y aura quand même à regarder comment est utilisé cet argent.
Moi, j'ai demandé une audition aussi de la production audiovisuelle indépendante. Et pas que des gros.
D'accord,
parce qu'il y a toute la création, en fait. Et je parlais du foisonnement, je crois que c'est le maître mot.
Voilà, quand on finance des films qui font deux entrées par séance, qu'on arrête au bout de...
Je parle de audiovisuelle qui passe à la télé.
Oui, le privé le fait aussi, il n'y a rien de.
Mais non, beaucoup moins. Interrogez-les, vous ne les avez pas vus, visiblement.
Mais si, on les connaît, et moi j'aurais juste comprendre pourquoi Media One, par exemple, a 40% du marché.
Je ne parle pas de Media One,
sur le service public, sur la 5. Quoi.
Des petites structures.
Et ça, effectivement, ce sera discuté lors de la commission, vous arrangerez avec Media One et avec d'autres. Je voudrais qu'on écoute Patrick. Bonsoir, Patrick.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Je voudrais, moi, un service public où il n'y aurait plus de censure. Des censures des opposants. Par exemple, les opposants au GIEC. Je parle des scientifiques, climatologues, physiciens, chimistes, mathématiciens, biologistes, qui n'ont pas le droit à la parole sur le service public. Les opposants à l'Union européenne, c'est-à-dire les partis du Frexit. Tous les partis du Frexit sont interdits d'antenne.
Mm-hmm. Ah d'accord, j'avais du mal à vous suivre, mais ça y est, je vous suis. Ok. Pardon, finissez, Patrick.
Oui, donc je disais... Les opposants à l'Union européenne, donc les partis du Frexit, qui eux aussi sont interdits d'antenne, alors que dans le même temps, on a des associations qui sont amies des journalistes, qui eux ont droit à des centaines d'heures d'antenne sans aucune raison valable. Donc il faut absolument qu'il y ait du pluralisme dans les médias de service public, et s'il y a autant d'opposants, y compris des gens qui veulent le supprimer, moi je suis pour le maintien. Un service public pluraliste, comme doit être tout service public.
Merci Patrick, merci pour votre question. Moi je trouve ça intéressant parce que ça nous ramène vraiment à un autre problème qui nous fait monter plus haut, même est-ce que réellement toute opinion a du sens et a une place? Est-ce que le service public, ça veut dire 5 minutes pour les platistes et 5 minutes pour les scientifiques, 5 minutes pour les gens qui pensent que le réchauffement climatique n'existe pas et 5 minutes pour les gens qui pensent que le réchauffement climatique existe? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Parce que si c'est ça qu'on veut, le socle commun que nous avons tous, qui est un socle de vérité commune, vole en éclats, en fait.
Non, mais ce qu'il y a, moi, je préfère la démonstration que faisait Aurélie tout à l'heure, qui disait il y a une sorte d'entre-soi et c'est déséquilibré. Moi, quand je suis tombé sur un reportage de France 2 qui dit il n'y a aucun lien entre insécurité et immigration, ça fait bondir 70% de la population française, je pense. Alors après, qu'on écoute toutes les sensibilités, pourquoi pas, à condition que ça soit dans les clous de la loi, déjà.
C'est mais là, on est dans les clous de la loi.
Oui, non, mais là, je rebondis sur ce que disait le dernier auditeur. Ouais. La Terre est plate, oui. Non, la Terre n'est pas plate, oui, sûrement pas. Oui. Mais même si, et là, c'est un problème, c'est l'éducation aux médias, là. Il y a 20% des gens, notamment des jeunes, qui y croient.
Ce que ça veut dire, pour aller plus loin, je pense, c'est est-ce que tout espace d'idées doit forcément être un espace discordant et un espace de confrontation.
Sinon, il y a les réseaux
sociaux. Là, vous êtes dans le téléphone sonne.
Sinon, il y a les réseaux sociaux.
Et c'est une émission où on échange des idées, on n'est pas obligé d'aller au clash systématiquement. Et au fond, ce que suggère notre auditeur, c'est exactement ça. Moi, j'ai l'impression que le dernier endroit où on n'est pas forcément dans quelqu'un qui pense blanc, quelqu'un qui pense noir, et je vous passe les grandes boxes, c'est ici. Est-ce qu'on a envie de ça ou pas?
Moi, je crois que ce qui est important, c'est que tout débat est absolument entre les diverses opinions qui forment le débat politique dans un pays doivent pouvoir s'exprimer sur le service public. Mais le rôle des journalistes, c'est quand même de présenter les faits et de les vérifier, de les recouper, et de ne pas non plus laisser dire des contre-vérités à l'antenne. Et moi, je considère aussi que ça devrait être le cas sur toutes les chaînes qui bénéficient d'un canal public. Mmh. Et donc, par exemple, sur le GIEC, c'est le consensus scientifique. Il y a des débats sans fin au sein du GIEC. Ça discute la virgule, ça pinaille, c'est énorme le débat. La communauté scientifique ne vit que par le débat et n'avance que par le débat. Mais est-ce qu'on devrait laisser la parole à celles et ceux qui sont tellement minoritaires dans la communauté scientifique, qui sont sortis du consensus? C'est pas comme ça qu'on fabrique un débat éclairé.
C'est l'idée d'un socle commun que nous avons tous et chacun qui vit et qui donne son idée sur ce socle commun. J'ai une dernière question, elle est pour vous deux, je commence par vous, Philippe Ballard. Pourquoi est-ce que le succès d'audience n'a aucune valeur, en fait? Qu'on parle de nous, qu'on parle de France Télévisions, mais il y a beaucoup d'auditeurs et il y a beaucoup de téléspectateurs. Est-ce que ça n'a aucune valeur?
D'avoir de bonnes audiences, je pense que c'est un signe qu'on fait quelque chose de bien, tout simplement.
Mais oui, mais qu'on veut fermer. Donc le sens de ma question, c'était, oui. Et pourtant, qu'on veut fermer. Non. Privatiser.
Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose en étant privé? Et est-ce qu'on ne peut pas remettre un petit peu... Parce que moi, tous les auditeurs que vous avez passés, quand même, quelque part, ils vous écoutent, tant mieux pour vous, mais ils vous critiquent un peu.
Mais tous, monsieur Ballard, c'est le principe.
Mais c'est donc que quelque chose ne va pas.
Bienvenue sur France Inter, mais pas du
tout.
Bienvenue sur France Inter.
Au contraire.
C'est que toutes les opinions sont bonnes à entendre.
De France 2, qui nous fait un reportage, et qui nous dit qu'il n'y a aucun rapport entre l'immigration et la sécurité. Alors vous allez me dire, ils ont peut-être fait de l'audience, mais enfin, après, c'est des faits.
C'est pas ça la question. Ce que je disais juste, c'est que nous avons effectivement 6 millions et quelques auditeurs et que parmi ceux-là, vous savez, il paraît qu'il y a 23% des gens qui écoutent France Inter et qui sont au Rassemblement National. Et
j'ai un chiffre supérieur même.
Ah ben voyez, ils sont là, ils nous écoutent et peut-être qu'ils sont en train de râler et d'autres qui sont contents. Et c'est ça qui fait le sel.
Sur les chaînes d'infos, on continue, on pourrait faire la même chose.
Je crois que ça s'appelle le pluralisme.
Encore une fois, je ne suis pas l'avocat de signe, mais ils font 4,5, je crois. France Info TV, ils sont à 0,9.
On sera ravis de le poursuivre ce débat. Je m'excuse vraiment. On n'y est jamais. Allez-y, 8 secondes, Sophie Taillé-Pollion.
Écoutez, je crois que l'urgence aujourd'hui dans notre pays, c'est pas de réformer le service public de l'audiovisuel, c'est de le financer à bonne hauteur et de s'attaquer à la concentration des médias.
Elle va durer longtemps, cette commission d'enquête. On sera ravis que vous reveniez et qu'on en reparle dans le téléphone sonne ou ailleurs.